souvenir de l'épreuve du Qatar, épreuve un nom qui qualifie bien une course marquée par la chaleur. Fallait-il retarder le départ? Quant à Lewis Hamilton, en sortant son coéquipier au premier virage, il a réveillé sa face cachée. Trop viril en piste, il n'assume pas ses faits d'armes en se drapant dans un discours bien pensant à l'opposé d'un Verstappen. Alors Hamilton est-il le roublard de la F1? Autre discours qui choque, celui d'Helmut Marko. Est-il devenu un boulet pour Red Bull? Et que dire de Checo Pérez? Qui pour le remplacer? Débat! Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro déjà dont refait la F1, vous le savez. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker bien sûr la vidéo s'il vous plaît. On refait la F1, vous le savez, c'est chaque jeudi avec, avant un Grand Prix et avec pour arbitrer nos fanats du paddock dont l'expertise est parfois, comment dire, assez de mauvaise foi. Nous avons besoin d'un team principal et c'est bien sûr comme chaque semaine ou presque Eric Boulier. Bonjour Eric.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
À mes côtés, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes, monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent.
Bonjour tout le monde.
Tu vas avoir du boulot ce soir parce qu'on a quelques procureurs contre toi.
J'attends que ça.
Voilà, à tes côtés pour défendre les Bleus cette fois-ci, l'écurie Alpine, monsieur Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et à mes côtés, il a disparu, monsieur Don Camille, il est à mes côtés à droite. Don Camille, monsieur chef de l'église Ferrari, ça va bien?
Si, bonjour. Non.
T'as préparé tes fiches contre Lewis Hamilton?
C'est fait, c'est prêt, c'est chaud.
Bon, et en duplex, l'édile du village Baïsia à Paris, monsieur Fabrice Marcella, alias Pépol, le maire du village Baïsia. Bonjour, bonjour Fabrice.
Salut Olivier, salut tout le monde.
Quant à moi, je demeure, vous le savez, le fan du meilleur pilote du plateau. Hein, je vous le dis à chaque fois, il s'agit bien sûr de Fernando Alonso. Allez.
Le plus vieux, tu veux dire.
Oui, mais il se bonifie comme le vin, contrairement à d'autres pilotes avec une étoile sur le capot. Un mot au sujet
de bon vin en Angleterre, ça se saurait.
Voilà, c'est clair. Un mot au sujet de notre sponsor NordVPN. Hein. Rien que pour vous, NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore en photographiant ce magnifique QR code que vous avez vu passer à l'écran.
C'est une façon de regarder les commentaires belges exceptionnels.
Exceptionnels.
Nous avons un Italo-Belge sur le plateau. Hein, donc,
un Italo-Belge.
Les commentaires d'un vigneron. C'est beau. Ouais. Ça continue. Ouais.
Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour un premier sujet? Radio check.
Radio check.
Loud and clear.
Allez, on enchaîne avec donc, les dernières polémiques qui ont suivi le Grand Prix du Qatar. Et on commence par celle qui concerne, bien sûr, Lewis Hamilton. Comment ça? Qui a écrit ce script? Je ne comprends pas. Verstappen est à nouveau, on le sait, le grand vainqueur hein, du Grand Prix du Qatar, triple champion du monde. Mais plutôt que de retenir une nouvelle fois cette domination, et son déjà troisième titre et troisième couronne qui fait l'égal d'Ayrton Senna, on va s'intéresser à un autre grand champion, Lewis Hamilton, un sextuple champion du monde qui a créé la polémique en envoyant dans le décor, son coéquipier George Russell, dès le premier virage. Russell a pu reprendre la piste et il a fait plutôt une magnifique remontée et finir quatrième. Lewis, lui, a dû abandonner. Évidemment, il s'est, comme d'habitude, excusé, mais sur le moment, il était assez véhément hein, et qui montre quand même une attitude qui démontre une face un peu plus obscure du pilote de Mercedes. Qui n'hésite pas à aller au contact de plus en plus, quitte à accuser son coéquipier avant de se confondre en excuses. Ce n'est pas la première fois, messieurs, que le champion anglais se comporte ainsi, provoquant des accrochages et se confondant en excuses. Mais le mal est fait, hein, n'est-ce pas, monsieur Don Camillo?
Bon, il faut bien que quelqu'un commence, commencer. Alors, je pense que pour être à ce niveau-là, on ne sait pas être gentil. Ça, c'est normal, acceptable. À partir de là, on est soit dur, ce qui a été le cas d'un certain nombre de pilotes champions du monde, soit on peut être plus vicieux peut-être que dur. Et à ce niveau-là, je pense que Lewis est quand même à un très très haut niveau. Il a commencé dès le début avec Fernando, quand il était chez McLaren. Il a continué après. Il faut parler à Lewis de Lewis à Kobayashi. L'accident de Grosjean où avec Alonso, c'est pas lui, sauf que ben, c'est quand même lui qui... Aspa, c'est lui qui pousse.
Il a beaucoup critiqué Grosjean, Aspa, où il a failli...
On oublie quand même qu'il est poussé par derrière, et c'est encore Lewis qui est dedans. La saison avec Rosberg a été quelque chose d'épouvantable pour Rosberg. Puis, on regarde les deux accidents avec Max en 2021. Il y en a un qui se fait à 280 km/h, qui envoie l'autre dans les choux et probablement ça aurait pu être beaucoup
Silverstone,
pardon, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Je pense, et Eric ne me contredira pas, je pense que ces pilotes sont capables de conduire à 280 au centimètre près, sauf quand on rebondit sur un vibreur, c'est une autre affaire. L'accident de Max, c'est autre chose. C'est voilà, je ne me laisse pas faire, je prends le vibreur, mais c'est nettement moins dangereux quoi qu'il arrive que l'accident de Silverstone.
51G.
Voilà, et pour moi, ça résume un petit peu toute l'histoire. À chaque fois, on s'excuse, à chaque fois, l'addition de tout ça, ça commence à faire beaucoup, et il ne faut pas parler à Sébastien Vettel non plus de notre ami Lewis. Voilà.
On se souvient, en Azerbaïdjan, notamment, lorsque il freine un peu violemment, et que Vettel lui rentre par derrière, entre guillemets, et puis il vient sur le côté, le pousse, et évidemment, toutes les critiques étaient envers Vettel. Et puis on pourrait citer, tu l'as dit, les multiples accrochages avec son coéquipier Rosberg chez Mercedes. Et c'est chaque fois le pilote allemand qui s'est fait taper sous les doigts systématiquement. Le roublard Lewis, lui, fait un peu.
Ils ont donné le titre cette année-là.
Parvenant toujours à se victimiser. Que répondez-vous à ces... Est-ce que là, on va faire un petit tour d'horizon, on va te donner la parole. Peut-être Guillaume, et après Fabrice et Eric.
Bon, déjà en 2016, Mercedes n'a absolument pas donné le titre à Rosberg. Il a été le chercher brillamment et il méritait sa couronne. Il a fait une super saison. Pour revenir sur Lewis, moi je suis d'accord avec Alain. Tous les grands champions ont du caractère et d'autres champions du monde avant lui, Schumacher, Senna, avaient ce même caractère. Il y aura beaucoup d'exemples entre Senna et Prost et aussi entre Schumacher et Damon Hill, par exemple.
Senna, Adelaide. Senna, Schum, Verstappen, ils assument leurs actes.
Je vais venir. Je pense qu'effectivement, Lewis, sur l'affaire Russell, en fait, il y a deux facteurs. Il y a un facteur structurel et conjoncturel. Structurellement, il est un peu, depuis un an ou deux ans, sous la pression de Russell, qui grignote la position dominante de Hamilton chez Mercedes, qu'il avait avec Bottas. Et là, il sent un peu le danger, et du coup, il doit montrer un peu plus les muscles. Ça, c'est structurellement, ça fait deux ans. Et puis, conjoncturellement, il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que Hamilton, il avait les pneus tendres, les pneus soft, les pneus rouges, au départ du Grand Prix du Qatar, et c'était le seul dans les 3-4 premiers pilotes. Du coup, il avait un intérêt très, très, très fort d'aller vite prendre la tête du Grand Prix, d'aller mettre la pression sur Max. Et je pense qu'il a pêché par excès d'optimisme, par volonté, et je pense que ça a contribué, en fait, ces deux facteurs à cet incident. Je pense que c'est un fait de course, et je ne suis pas sûr que Hamilton soit plus agressif que les autres champions qu'on a cités tout à l'heure.
Ah, mais comment ? Alors, Monsieur Fabrice et Eric, peut-être vos réactions. Est-ce que vous trouvez que c'est un fait de course, ou au contraire, bien que tout simplement... souvenez-vous, notamment... J'ai l'impression de revoir... C'est un monde sans fin. Hein. Pour moi, le summum, ça reste quand même le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2016, alors qu'il est en tête et que ça ne suffit pas pour être champion du monde. Il permet à tout le monde de revenir, quitte à perdre, pour que Nico Rosberg se classe que 3e ou 4e et donc ne soit pas champion du monde. L'ensemble, le team principal, l'ensemble de l'écurie Mercedes lui demandait d'accélérer, il a refusé. J'ai la citation d'Hamilton, regardez. Son ingénieur, Lewis, tu dois augmenter le rythme pour empêcher Vettel de revenir. C'est un ordre, disait l'ingénieur d'Hamilton. Et il a répondu, je m'en fous, hein, je suis en train de perdre le titre, lui a rétorqué Hamilton. Est-ce que c'est acceptable, ça, de la part d'un pilote
Un peu, mon neveu.
Oui, on va poser la question au team principal, peut-être. Eric, et après Fabrice.
Oui, je vais pas en remettre une nouvelle couche, sur Sir Hamilton, tu aurais pu dire à la place de Roublard, le petit filou. Il n'en reste pas moins. Effectivement, c'est un pilote, il veut gagner, ça ne me choque pas outre mesure cette envie, en tout cas, de certaines fois d'être un petit peu à côté des règles ou en tout cas d'être dans la limite de ce qui est acceptable. Mais il le fait, c'est assez étonnant, c'est la perception qu'a le public vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quand Schumacher fait ça, tout le monde critiquait Schumacher. Quand il le fait, tu vois, il le fait sans le faire et puis après, immédiatement, il s'excuse, quoi. Donc, et on a plutôt tendance, finalement, à accepter, c'est la première fois, finalement, qu'on d'ailleurs qu'on qu'on tacle un petit peu Hamilton hein, dans cette émission, mais sinon on a toujours tendance à accepter. Ouais, c'est Sir Hamilton. Il faut surtout pas toucher à Sir Hamilton. Donc, je suis content qu'on en parle. Et c'est pour la première fois, voilà, dans cette émission, je suis d'accord avec Guillaume.
Alors, Eric, peut-on dire que Hamilton cache bien son jeu, toi qui l'as bien connu et qu'il est un peu roublard, avec un comportement anti-sportif en piste et un discours toujours policé hors piste, l'antithèse d'un Alonso ou d'un Verstappen qui l'ont payé, eux, par contre, très cher en affirmant en piste et devant les micros, bien haut ce qu'ils pensent, alors que Hamilton, ce n'est pas forcément la même chose.
Alors, je dirais qu'il y a du vrai dans tout ce que tout le monde a dit. Il y a aussi du faux. C'est un grand champion automobile, comme l'a dit Alain. On n'est pas champion, oui, surtout multiple champion du monde en vendant des roses, quoi. Donc, forcément, il y a toujours un petit côté roublard, comme tous les champions en ont eu. Alonso l'a aussi, Schumacher l'a aussi.
Non.
Et quelque part, même Rosberg l'avait aussi, même si il est peut-être moins présent que Lewis. Tous l'ont eu. Tous l'ont. La particularité de ces champions, c'est que c'est d'abord des mauvais perdants. Ils ont tous ça en commun, en trait de caractère. Donc, effectivement, le côté émotionnel, le côté quand tu es sous pression et que tu ne vas pas gagner ce qui est ton graal, en fait, hein, en permanence, gagner la course, gagner le championnat, et que tu vois que tu vas le perdre, on ne peut pas blâmer Lewis à ce moment-là, en 2016, par exemple. Même si effectivement la réaction on la comprend, on la comprend pas, on la supporte, on la supporte pas, mais bon, le gars il consacre toute sa vie comme toute l'équipe d'ailleurs hein. Donc c'est vrai que quand on pose la question est-ce que c'est normal ce qu'il répond à l'ingénieur ou pas, je fais une réponse de Normand, c'est oui et non, parce que c'est un travail d'équipe, donc il doit respecter l'équipe.
Il aurait sanctionné toi en tant que type principal.
Et en même temps, lui, dans sa tête, il doit se dire à ce moment-là, de toute façon, que ce soit moi ou pas moi qui gagne, l'équipe Mercedes est déjà champion du monde, donc ça changera rien pour eux. Et donc il y a que lui en fait qui perd en fait.
Ouais.
Donc si vous voulez. Oui, alors roublard, non, je dirais non. Après, mauvais perdant, oui, comme ils le sont tous d'ailleurs. Après, voilà, si on reparle de l'accident de Silverstone l'année dernière, c'est aussi l'homme à abattre, d'accord. Un Max Verstappen qui est en pleine ascension, on va dire. Ce que fait Lewis, clairement, il se positionne juste à côté de la voiture avant le virage. Pour montrer à Verstappen, c'est moi le patron, il faut que tu me laisses passer. Et l'autre lui dit non, en gros. Donc il lâche pas et ils se retrouvent au contact parce que cette vitesse-là est dans le temps imparti qui est en quelques dixièmes. Ils auraient pu le faire comme à Monza. À Monza, c'était moins, quelque part, moins dangereux, même si ça reste toujours dangereux, parce que les deux voitures se sont montées l'une sur l'autre. Là, ça a été spectaculaire parce que c'était à 280. Mais c'était la même chose, c'était exactement la même chose. C'était deux coqs qui montraient à chacun qui est le patron, quoi.
Good job, solid, very solid.
J'aurais pas dit mieux moi-même. Laurent, allez, réponds s'il te plaît à ces vives attaques.
Non, vous avez tout dit. Alors je vais prendre trois choses. Je vais faire, je vais à bonne école, hein, donc je prends, c'est structuré. La première chose, c'est...
Conjoncturel, s'il vous plaît.
Ouais, c'est structurel.
Non, mais c'est plutôt structurel ou conjoncturel, toi, par
contre. Mais bon, bref.
Ou émotionnel.
Le coup à jouer, c'est effectivement les pneus tendres et pour passer devant. Le deuxième, c'est que instinctivement, et ça se voit très très bien, donc sur le moment, j'ai une réaction mais hyper violente. J'ai dit, putain, mais il déconne. De toute façon, il ne pouvait pas passer Russell. Pourquoi il essaye de forcer la porte? Tu vois, il n'y avait aucune chance qu'il passe. Après, j'ai regardé les images. Alors, oui, bien sûr, il va s'excuser, c'est la faute. On dit que c'est la faute. Attends.
C'est toujours comme ça.
Est-ce que je peux parler ou pas? Parce que sinon, tu peux parler, tu me dis, on passe au sujet suivant. Hein.
Ouais,
donc, moi, j'ai regardé les vidéos. J'ai regardé au ralenti les vidéos donc embarquées d'Hamilton, les vidéos de Russell. Russell se fait prendre comme un bleu en fait. C'est-à-dire qu'Hamilton, dès le départ, il le coince. Non, je te dis juste que ce que fait Hamilton, il le fait volontairement. Volontairement, il veut bloquer Russell en se mettant dans une position où en fait Russell est bloqué. Même s'il allait plus vite. Et ce qui a été fort, c'est que Russell a pris finalement un départ presque meilleur que Verstappen. Parce que du coup, il a réussi à avancer dans Verstappen. Et il a coincé contre Verstappen. Et au moment d'arriver dans la courbe, il était obligé de légèrement écarter. Ou sinon, il rentrait dans le cul de Verstappen. Et c'est là où il se touche. Donc, moi, il a bien tenté. Il a perdu. Hein. Il faut quand même dire les choses. C'est que Hamilton, aujourd'hui, il a tenté un coup qu'on peut appeler dégueulasse et tout ça, s'il passait Russell et si dans la courbe il arrivait à l'enrouler qui passait Verstappen, tout le monde dit ah c'est un coup de génie. Le premier qui a blâmé dans ce truc là c'est Hamilton, mais c'est lui qui est pénalisé en même temps. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième qui gagne de ce truc là c'est Pérez, et on en parlera après, parce que si Hamilton se loupe pas et finit premier ou deuxième de ce Grand Prix, Pérez, allez, ciao. Donc, continuons. Maintenant, je vais reprendre deux points.
Je reprends deux points juste.
Non, parce que vous avez fait un peu l'histoire. Sur Silverstone, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur Silverstone, ce qui s'est passé, ça faisait plusieurs fois que Verstappen disait bah, « Moi, de toute façon, hein, c'est soit on me laisse passer, moi, je baisse pas les bras, je continue. » Et il a sorti pas mal de monde. Il y a eu pas mal de touchettes de la part. Et là, il n'a pas laissé passer. Donc, moi, j'avais trouvé ça plutôt malin de dire « Ouais, je suis le vieux con, c'est moi, mais moi, je vais montrer que moi aussi, j'ai été comme toi plus jeune et je vais montrer qui c'est qui. » Alors Eric a parlé moins vulgaire que moi, il a dit de coq, c'est qui va pisser le plus loin, je dirais, tu vois. Donc voilà, il y avait un troisième truc que vous avez cité, je sais pas c'est lequel, mais pour moi c'est un fait de course. C'est celui qui se fait pénaliser, le premier, hein, après l'équipe, c'est Hamilton. Donc il a joué, il a perdu. Je trouve ça dommage parce que ça, je pense que ça aurait fait un Grand Prix assez génial avec, quand on voit la remontée de Russell. Maintenant, ah oui, je sais ce que je veux dire. Sur l'accusation.
Ça reste Russell quand même.
Le grand perdant, ça reste Hamilton. Russell, c'est les fins du.
Ok. Il arrête de prétendre.
Je donne juste un truc. Quand au Grand Prix de France, Leclerc se sort, il y a la pédale. Il n'y a pas de pédale. Mais la première réaction, c'est le mec a fait une connerie et il dit putain merde, c'est pas moi, c'est la voiture. Donc en fait, je pense à ça parce que l'autre jour, j'ai revu cette scène. Donc en fait, tous ces pilotes, ils sont comme ça. Putain, me faire sortir par mon coéquipier, c'est exactement ce qu'il a dit. Quand tu regardes, il a pas vu l'image. Hein, et quand tu vois de lui, tu ne vois pas l'image parce que quand ça lui est arrivé, avec l'image embarquée, tu vois pas l'image. Même dans le rétroviseur, tu as du mal à voir comment ça touche. Et après, il voit les images prises de l'extérieur. Et prises de l'extérieur, effectivement, il a un peu fermé. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a rien à dire. Donc en fait,
Russell,
vous mettez la tête comme ça.
Que Russell s'excusait aussi.
Oui. Russell s'est excusé aussi, mais donc moi j'irais plutôt.
C'est la bonne éducation britannique. Hein,
donc, tout à fait.
Forcément s'excuser tout le temps après, mais pour moi, il y a pas effectivement tout ce que tu as dit, Laurent, est en partie vrai. C'est un fait de course, hein, le Qatar. Ouais. Il a la possibilité de prendre un super départ avec des pneus plus tendres. Il tente le coup. Et Russell se retrouve là et c'est un fait de course et tout. Après, effectivement, le côté quand on met sous adrénaline et mauvais perdant fait qu'on accuse d'abord l'autre avant de se regarder soi-même. Mais ils ont très vite corrigé le tir, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour revenir à ce que tu disais sur Silverstone, c'est ce que je te dis, c'est que très, très vite, en fait, hein, même dans les catégories juniors, les pilotes apprennent à s'imposer. C'est une des règles qu'ils apprennent, c'est-à-dire qu'ils veulent que quand on voit le casque jaune d'Hamilton dans son rétro, eh ben on sait instinctivement, il y a un petit avantage psychologique, on sait que quand il va tenter de nous passer, on ne va pas tenter de le bloquer, puis de toute façon c'est Hamilton. Et donc, ça il faut le gagner. Et pour je devrais pas le dire, mais c'est ce qu'on apprend dans les catégories juniors. Dans les catégories juniors, les gamins, des fois, se mettent exprès à côté de l'autre et lui mettent un coup de ponton pour lui dire la prochaine fois, tu me laisses passer. Ouais. Et c'est comme ça l'école de la course. Voilà.
Allez, Guillaume, pour conclure.
Ouais, juste pour peut-être conclure ce débat et donner un peu de perspective, je pense qu'il va être intéressant, c'est la réaction de Russell et la dynamique en fait interne dans l'équipe. Est-ce que Russell en fait, il a le choix. Soit il devient un Bottas, soit il devient un Rosberg. Donc soit en fait, il s'écrase devant le maître. Oui, bien sûr, il est plus Rosberg déjà. Mais en fait, on est à un moment clé. Soit il s'écrase devant le maître, le vieux lion Hamilton, vénéré par Laurent et tous les autres.
Et Laurent.
Soit en fait, il choisit la résistance. La résistance face au vieux Hamilton. Et il prend sa place, il s'impose. Et d'ailleurs, Rosberg, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, lui a conseillé d'être résistant et de ne rien laisser passer Hamilton. Et il faut qu'il fasse ça pour s'imposer et devenir lui-même champion du monde, comme Rosberg l'a fait.
Il a un problème, Russell. Hein. C'est que Russell, tu sais, c'est comme dans ce sport où finalement, tu es très, très bon. Tu es très, 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 très bon. Et ça se voit dans le tennis. Dans le tennis, il y a des mecs qui sont excellents. Et à un moment donné, deux stars. Et les mecs sont tellement bons qu'ils ne te laissent pas de place. Et toi, finalement, si ces gars n'auraient pas été là, mais toi, tu aurais été le premier, mais tu n'arriveras jamais à les battre. Et Russell, j'ai peur qu'ils soient un peu dans cette configuration-là.
C'est le syndrome Andy Murray.
Ouais, c'est le syndrome Andy Murray. Non, mais derrière, il y a le jeune Italien, là, Kimi Antonelli, je ne sais plus comment il s'appelle, là, dont je vous ai parlé la semaine dernière.
Antonelli.
Ouais, qui arrive derrière. Donc, tu vois, il va arriver dans 2, 3, 4 ans. Qui est déjà signé, là, à l'âge de 12 ans, il était signé chez Mercedes. Et tu dis, moi, je suis le prochain.
Il est sacré, d'ailleurs. Il vient d'être sacré champion de Freca, Formule Renault.
C'est ça. et tu vois ce truc et tu te dis purée, je suis là, c'est maintenant qu'il faut que je joue des coudes, c'est maintenant qu'il faut que je m'impose, parce que finalement la jeune génération, quand tu vois un Piastri, tu vois les mecs ils se battent, ils ont le couteau entre les dents. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 20 places, peut-être bientôt 22, mais on en discutait avec Eric avant, le niveau grâce à au budget cap, le niveau des pilotes a terriblement augmenté. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de moins en moins de pilotes payants.
Non, mais arrête de faire le politique là, en prenant la parole de manière infinie pour détourner le sujet.
Je détourne en fait, pas le sujet, pour moi, il n'y a rien à dire.
Moi, je ne suis pas là en train de dire, ben, Russell, machin, incident de course, oui, ça peut être incident de course. Ce que Fabrice et moi ont dit de manière claire, c'est qu'il y a une liste longue comme mon bras, hein, mais, d'incidents dans lesquels
il est mis. Quoi, mais c'est n'importe
chaque
quoi.
Chaque fois, passe-moi l'expression, il a agi. Alors, on peut dire British ce qu'on veut, Eric connaît mieux ça
mais,
que
mais
nous.
Mais plus tu roules, mais plus tu roules. Mais plus tu roules, plus tu as des problèmes.
Est-ce qu'on peut citer, personne ne l'a cité, mais je pense que c'est important de le rappeler, Espagne 2016, où Rosberg a gagné les premiers Grands Prix, Hamilton il est en difficulté, Rosberg il prend un bon départ, qu'est-ce qui se passe ? Paume il lui rentre dedans, les deux Mercedes au tapis, et Verstappen gagne sa première course chez Red Bull.
Qui on a
50-50 on a dit. Personne
non, c'est chaque fois c'était Rosberg qui s'en prenait plein la gueule. S'il arrête sa carrière...
En tant que grand supporter de Rosberg, bah oui, ça aurait dû être Hamilton qui...
Le gars, il a commencé dès le début, avec Alonso, il arrive, bam, ça commence.
Dès qu'il sent de la résistance,
il joue le
match. Et il est septuple champion du monde, et comme tous les autres, et comme tous ceux qui ont été élus. Et Senna était comme ça, il se bat. Je ne détourne pas la conversation.
On l'a dit,
Voilà, comme ça, c'est...
Il faut le reconnaître, on l'a dit. Tous les grands ont fait comme ça, mais il faut juste le reconnaître.
Il assume.
Je maintiens, j'assume.
Allez, assez parlé d'Hamilton. On va s'intéresser à l'autre polémique du dernier Grand Prix du Qatar. Il s'agit bien sûr de la chaleur.
Chaleur.
La F1 en surchauffe, le studio en surchauffe, donc tout va bien. C'est le fait marquant du Grand Prix du Qatar. La chaleur accablante et la condition physique des pilotes de la F1 du Grand Prix qui était vraiment au plus bas. Une température qui allait passer les 40 degrés en bord de piste, près de 50 degrés ressentis. Hein, c'est énorme, humidité proche de 75%, les amis. On les a tous vus, ces images, elles étaient impressionnantes. Abandon de Logan, Sargeant, complètement déshydraté, hein, qui a dû s'arrêter avant même la fin du Grand Prix. Abandon, pas d'Esteban Ocon, mais Esteban Ocon a carrément raconté qu'il avait vomi dans son casque. Hein. Pourtant, quand on voit la bête physique que c'est quand même assez symptomatique. Et carrément, mon idole, Fernando, Alonso, qui a réclamé qu'on jette un seau d'eau hein, sur son siège qui était brûlant. Et Norris a déclaré que certains pilotes se sont évanouis au centre médical juste après le Grand Prix.
Enfin, regarde juste la cool room. Hein. Tu as, je ne sais plus qui c'est, si c'est Norris ou Piastri qui est allongé par terre. Quoi. Le mec, tu as l'impression qu'il est en PLS. Quoi. Tu sens qu'il est rincé. Quoi. Tu vois, le mec...
Alors, comment on interprète ce coup de mou, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a une erreur de la FIA en termes de calendrier ? Ce n'est pas le bon moment ? Est-ce qu'il fallait retarder le Grand Prix ? Votre avis, les amis ?
Moi, je peux vous dire
la réponse. Elle est à la fois
structurelle
et conjoncturelle.
Waouh !
Voilà.
Elle est structurée. Non, pardon. J'ai du mal à me dire comment, quand t'es un pilote et que tu subis tout ça, comment t'arrives à piloter une voiture de façon aussi précise et sans te mettre dehors. Comment tu fais pour continuer à piloter une bagnole quand t'as vomi deux fois dans ton casque ? Déjà, vomir une fois sans casque, c'est quand même compliqué à assumer. Voilà. Et donc, je suis vraiment épaté par ça. La performance, finalement, c'est vraiment des surhumains pour pouvoir faire ça. Et je me dis, mais pourquoi on la laisse faire ça ? Parce qu'on met en danger tout le monde, en premier lieu, bien sûr, le pilote, et puis tous les pilotes qui les entourent. Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce qu'on est capable d'arrêter une course ? Et j'ai l'impression que non, hein, quand vraiment ça dérape. La preuve, hein, c'est que là, finalement, les données, on ne les avait peut-être pas avant, mais pendant la course, on savait qu'il était très chaud et on savait que les pilotes souffraient. Et pour autant, on a préféré continuer à avoir une course qui aille jusqu'à sa fin. Donc, est-ce qu'on sera un jour capable de se dire, ben non, tiens, là on stoppe, quoi. Comme quand il y a trop de pluie, qu'on ne peut pas, comme ça s'est passé.
Ou retarder, hein, c'est ce que... C'est Alonso qui disait qu'il aurait fallu retarder un petit peu le Grand Prix, mais c'est vrai qu'avec les enjeux de diffusion télé, c'est parfois un peu compliqué.
Il y a un problème complémentaire, c'est que c'est un circuit physique, quoi. Quand tu vois les enchaînements, la vitesse à laquelle ça se passe, le nombre de G qu'ils prennent, c'est encore un truc qui rend la chose compliquée. Maintenant, qu'il fallait faire
très vite, hein, la solution qu'il fallait mettre en place. Il ne faut pas aller au Qatar, c'est tout. Il faut arrêter en fait de mettre ces Grands Prix en plein désert. Le prochain, c'est quoi ? C'est au Sahara, c'est ça ? Il faut revenir à une Formule 1 avec des Grands Prix en Europe. et pas aller dans tous les recoins de la pièce.
Ça, c'est un problème.
Non, mais structurel, je veux dire. Non, mais le problème.
Au sud de la France, plus précisément.
Évidemment.
Non, mais structurel, conjoncturel et conservateur.
Très conservateur.
D'accord. Honnêtement, non, mais le centre de la France à Manicourt nous convient très bien aussi.
Non, je préfère le sud de la France.
Ça convient très bien.
N'est-ce pas, monsieur Bouillet?
Il faut arrêter. C'est vraiment la première fois où je suis toujours d'accord avec Guillaume.
Merci. Il faut arrêter. Mais malheureusement, en fait, malheureusement, ça ne marchera pas. Ça marchera pas.
Tu peux mettre du yellow flag là, vas-y.
Oui.
Ouais, c'est pas. Yellow flag, non,
on résiste. Je serai là pour résister, mais je veux dire, il y en a marre d'aller dans tous ces. Alors, j'ai rien contre ces pays-là, il faut pas le dire trop fort d'ailleurs.
Avoir.
Non, il faut pas.
Alors,
oui.
Il y a quand même un petit yellow peu. Flag, d'autres, y a flag, un autre flag. Élément dont il faut se tenir compte, c'est l'histoire des pneumatiques, qui a fait que le nombre de tours était limité et que n'ayant plus à protéger entre guillemets les pneus, surtout enfin l'état des pneus, les pilotes se sont donc lancés dans de 3 ou 4 séances qualif de 18 tours, donc ce qui fait que ça n'a pas
changé
les choses, ça n'a fait qu'aggraver en fait hein. Maintenant dans les conditions de chaleur et tout qu'il y a eu, c'est vrai que c'était particulièrement difficile et que arrêter une course, pour répondre à ta question Fabrice, c'est pas possible parce qu'il y a trop de contrats, trop de contraintes légales et financières. Mais par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu, peut-être décaler le départ de la course, mais encore ça, c'est compliqué aussi, quoi.
Alors, regardez cette déclaration de Jason Button qui a bien résumé le problème. Le plus gros problème pour eux est que leur corps a été soumis à des jets latéraux très élevés pendant si longtemps, hein, en plus exacerbés par les 18 tours de qualif, qu'ils ne pouvaient plus respirer. Ils ne sont pas en mesure de faire entrer l'oxygène dans le sang, c'est donc le plus gros problème. Mais je trouvais plutôt sympa, finalement, cette contrainte qu'a fixée Pirelli de d'empêcher les pilotes d'aller au-delà de 18 tours.
Mais c'est grave. Attends, t'imagines, on arrive à un niveau où en fait les pneus se dégradent tellement que tu dis on ne tient pas plus de 18 tours pour la sécurité.
Non. C'est pas une dégradation, je t'interromps Laurent, c'était le problème
structurel.
Des livreurs.
Structurel, ouais, la découverte, c'est structurel.
Pour reprendre le terme, c'était un problème structurel, effectivement,
ouais,
une vibration. Un problème vibratoire sur les pneus où en fait personne ne savait que les livreurs avaient été refaits et que le design avait été changé apparemment.
Alors, on a perdu notre ami Fabrice, mais il va revenir dans un instant. Est-ce que justement...
Non, mais c'était sympa, sauf qu'il n'y avait pas de stratégie.
Au-delà de la polémique, est-ce
que... Non, mais
que,
c'était sympa, mais il n'y avait pas de stratégie.
Vous ne pouvez pas, justement, obliger les écuries, justement,
alors,
à s'arrêter.
Je vois deux problèmes, moi, ça. Je vois deux problèmes. Le problème numéro
15 ou 16 tours,
je supprime la stratégie, parce que du coup, tout le monde tourne à 18 tours. Donc ouais, c'est des batchs de... Ouais, mais c'est des... Donc du coup, c'est que des qualifs.
Tu peux partir en tente comme
Hamilton. C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Finalement, tu te rends compte que, tu vois, c'est un peu tout le truc. La deuxième problématique que je vois ça, c'est que ils veulent réduire le nombre de pneus, on veut supprimer la chauffe des pneus parce que c'est pas écolo, machin, bidule. Et là, en fait, tu t'en fous parce que tu consommes un nombre de trains de pneus sur juste le Grand Prix qui est énorme.
En tout cas,
c'est pas cohérent.
Tu consommes plus d'essence, ça.
En tout cas, il y a certainement une erreur de calendrier puisque l'année prochaine, le Grand Prix du Qatar est prévu le 1er décembre 2024. Allez, autre polémique récurrente, celle-là. Celle créée par les déclarations à l'emporte-pièce de M. Helmut Marko, le conseiller et dirigeant de l'équipe Red Bull. On en parle. Allez, sortez les baïonnettes, mes fanas du paddock. Est-ce que Helmut Marko est devenu le boulet de Red Bull? Helmut Marko, je vous le rappelle, c'est le responsable de la filière Red Bull et de la détection des pilotes. Et puis, ces derniers mois, ces dernières années, il a multiplié les déclarations pour le moins maladroites. La plus marrante, c'était pendant le Covid. Hein. Souvenez-vous, il voulait réunir tous ses pilotes et leur administrer le virus pour les immuniser. Voilà, une technique bien efficace. Et puis récemment, c'est ces déclarations concernant Sergio Pérez. Je cite, « Nous savons qu'il a des problèmes en qualification. » Il parle de Checo. « Il fluctue, il est sud-américain. » Et dans sa tête, il n'est tout simplement pas aussi clairement concentré que l'était Max Verstappen, qui, bien entendu, vous avez bien compris, n'est pas sud-américain, ou Sébastien Vettel. Il a déclaré ça sur Service TV, qui est la chaîne de Red Bull. Messieurs, comment, pour paraphraser Lewis Hamilton, mon cher Laurent, comment peut-on tenir de tels propos en 2023, Laurent, franchement?
En fait, il a toujours été comme ça. Il a toujours eu un côté... alors, si je dis nazi, on va me dire qu'il ne faut pas dire ça, mais... il a un côté quand même,
très directement en fait.
C'est le geste qu'il m'a fait.
Non, mais il a un côté. Enfin, dire.
Il a dit, il a un côté. Il n'a pas dit. Donc quelque part, je soutiens Laurent.
Oui. Non, mais Non, mais côté. Il a un côté. Il a pas un côté commode. Il fait trembler le paddock et en tout cas les pilotes. Hein, il a égorgé à main nue un nombre de pilotes incalculable. Hein, donc on va pas parler des Gasly. Il y a une liste des Kvyat. Des, je sais pas, ils en sont à 7 ou 8. Donc c'est un gars qui est pas commode. D'ailleurs, tu le regardes, il est pas commode. Et c'est pas seulement parce qu'il a qu'un œil. Hein.
Au-delà, le Mexique, c'est pas un pays d'Amérique du Sud. Hein,
non, c'est un pays d'Amérique centrale et les Mexicains n'ont pas du tout.
Après, il connaît mal sa géographie, oui.
Puis accessoirement, il y a déjà des pilotes d'Amérique du Sud qui sont.
Il y a quand même quelques. Ouais, il y a au moins deux champions du monde hein, en Amérique du Sud, quoi. Tu vois, trois même d'ailleurs. Tu as raison, excuse-moi, j'avais oublié.
Avec Fangio, Senna et Piquet.
Et Piquet, ouais.
La qualification, Senna, c'était quand même pas le plus nul. Hein.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est le mec, il est. Et ça, je dis toujours, Drive to Survive, il y a des choses qui sont un peu romancées, tout ça, mais ça nous a permis aussi de voir des images qu'habituellement on ne voyait pas. C'est-à-dire des images d'une caméra furtive qui passe dans le paddock et tu vois une discussion. Putain, tu vois des discussions entre Horner et Marco. T'as l'impression qu'ils sont en train de comploter, tu es en train de préparer le prochain coup qu'il va faire. Enfin, j'aimerais pas le croiser dans une rue sombre. Hein. 40, on sait où il est.
Mais c'est
pas
un peu scénarisé, selon vous, un peu tout ça?
Non, parce que je te parle pas de. Je ne te parle pas de quand il est devant les caméras. Je te parle au moment où, par exemple, il y a un pilote qui passe et la caméra suit le pilote et où tu le vois en train de discuter sur le côté, tu vois, où il est juste dans le champ, mais ça dure, c'est furtif. Et tu le vois, il est comme ça, il est petit. Tu vois, il a avec les mains, ils sont en train de.
J'ai dit, mais c'est quoi,
c'est, ouais, c'est ça, quoi. C'est mec là, c'est une terreur. Ça ne va pas durer longtemps, ça ne va plus durer longtemps, mais c'est une terreur, quoi.
Alors, Eric, on va faire un peu d'histoire et nous parler.
Bah, il écoute. Non, alors déjà, il n'est pas petit, il est grand, hein, physiquement parlant.
Mais il est petit à la caméra.
Non, après,
il se voûte après 80 ans.
Il a fait son temps, on va dire. Hein, je suis désolé de dire ça. Il a près à 80 ans, je crois. Hein, ouais. Donc, il y a aussi peut-être une certaine lassitude. Et puis, bon, il faut comme. Je ne veux pas faire de langue de bois, Olivier, mais.
Mais un peu
c'était quand même les yeux et les oreilles de Matechitz. Hein. Et donc, depuis que Matechitz est parti, ça a été, entre guillemets, les boulettes médiatiques de trop. Et donc, forcément, contrairement à ce que notre ami Christian Horner raconte dans le journal le Mirror, le Daily Mirror, c'est quand même... où il dit combien ils sont amis, copains et tout, alors que bon, c'est pas vrai du tout en fait. Hein, ils se haïssent depuis le début et Marco avait été bombardé là où il est aujourd'hui pour garder un œil sur l'écurie en Angleterre.
Pour cornaquer Horner.
C'était l'œil de Matechitz, en jeu de mots.
Le grand protecteur est parti, forcément, il y a un petit peu de voilà.
Donc on est bien Eric, on est bien d'accord qu'il a toujours été Helmut Marko un électron libre et il n'apparaissait pas dans l'organigramme officiel de l'écurie Red Bull. Hein.
Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous lisez entre les lignes, bon après il y a ce qu'on sait nous du paddock, mais quand on lit entre les lignes dans la presse, effectivement, je pense que le départ de Marko a été acté.
Alors c'est effectivement en creux, et c'est la raison pour laquelle on abordait ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des rumeurs qui se multiplient sur le fait que Helmut Marko prendrait la porte et que ce serait donc Christian Horner qui prendrait qui aurait donc les pleins pouvoirs. Quelle était la répartition des rôles entre les deux hommes? Est-ce qu'effectivement, on a bien compris ce que tu as dit, Eric, et c'est une info qu'on n'a pas entendue ailleurs. Merci que Helmut était là pour surveiller
cornaquer
Christian Horner. Tu m'as même raconté qu'à un moment donné, il a même été viré, hein, Christian Horner de chez Red Bull. Hein.
Il y a eu des histoires sur ce sujet, effectivement, et que clairement, la présence d'Adrian Newey a permis à Christian Horner de, en tout cas, conserver son rôle. Mais en même temps, bon, il faut admettre que la paire a plutôt bien réussi, voire le trio, en tout cas. Mais ça ne s'est pas fait forcément en pleine harmonie, on va dire.
Ouais, car, oui, il y a eu quelques moments assez tendus, mais finalement, ils ont même été, les amis, alliés à un moment donné. On se souvient l'année dernière que Porsche a été obligé d'abandonner son projet de se rapprocher de Red Bull parce que Horner et Helmut Marko étaient front debout et ne voulaient pas entendre parler de Porsche. Hein.
Maintenant, d'un autre côté, on aborde un sujet avec un gars qui est plutôt pas de bonne composition.
Ouais.
Mais je ne veux pas être trop traditionnaliste, mais je dirais que la Formule 1 était plus fleurie à une certaine époque, quoi. C'est-à-dire que là, dès qu'un pilote commence à soit avoir un geste de mauvaise humeur, ou va aux toilettes à un moment où il ne devrait pas, on lui tombe dessus. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Là, on exagère, je trouve. Il faut que tout soit polissé.
Ouais, mais là, il y va fort.
Moi, j'apprécie ce conservatisme renouvelé. Alain, parce que je t'habitue à un Alain post-moderne, et je retrouve un Alain traditionnel, j'en suis très heureux.
Non, j'aime conserver les vraies et les bonnes valeurs. Quand on peut progresser,
ouais,
je suis ouvert.
Il est quand même très borderline, le garçon. Il est limite extrême.
Donc,
borderline.
Attends, tu penses que Lance Stroll aurait dû non pas pousser son physio, mais le tabasser, lui prendre un coup de poing, en fait?
Ben non, puisqu'il est déjà réprimandé simplement en faisant ce qu'il a fait.
Au-delà de la difficulté, on a bien compris, pour revenir sur Helmut Marko, c'est que bien qu'il ne soit plus dans l'organigramme, qu'il soit un électron libre, ses déclarations étaient vraiment assimilées à celles d'un dirigeant de Red Bull, et ça a causé beaucoup de tort à l'écurie.
Il porte un gilet Red Bull, il n'est pas là avec un gilet blanc ou un gilet bleu ou un gilet truc.
Il a quand même énormément apporté, c'était quand même un détecteur de talent formidable, l'éclosion d'Verstappen, notamment.
Il ne faut pas manquer de respect à cette personne.
Il semblait quand même assez indéboulonnable, mais c'est vrai qu'il a multiplié les déclarations malheureuses, et ça semble être tendu ces derniers temps sur le choix des pilotes avec Christian Horner notamment. Allez-y les amis. De Vries notamment.
C'est de lui dont tu veux parler, j'imagine. Ouais. Et effectivement, il a fait quand même quelques erreurs, et c'est le cas peut-être de Nick de Vries.
Il a imposé de Vries apparemment par rapport à Horner. Ouais. Il a choisi de prolonger Tsunoda également contre l'avis d'Horner une nouvelle fois, en voulant ménager absolument Honda. Donc, il a conservé, il n'a pas conservé Liam Lawson, qui a plutôt bien remplacé le Ricciardo.
On voit qu'il est aussi très bon dans la motivation de ses pilotes. Regardez Sergio Pérez, par exemple, qui performe bien grâce à lui en ce moment. Donc, il est assez bon dans la dynamique d'équipe. Ouais.
Après, il y a quand même 7 titres de champion du monde en moins de 15 ans. Ouais, je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
Il faut rendre un peu à César ce qui lui est redevable. Il a quand même trouvé de très bons pilotes et permis à des Max ou des Sébastien Vettel de s'exprimer. Après, il a un management très, très rude, ça c'est clair. Il n'a pas vraiment de pitié pour les pilotes. Pour lui, c'est un peu du sopalin, si je peux me permettre. Ce qu'il lui reprochait aussi, c'est que là, il n'y a plus vraiment de talent dans la filière aujourd'hui. Donc, je pense qu'il l'a un peu délaissé. Il a développé beaucoup d'autres activités personnellement. Et effectivement, aujourd'hui, quand Red Bull quand même dépense plusieurs millions d'euros tous les ans dans une filière de jeunes pilotes, il n'y a pas vraiment de talent aujourd'hui qui ont percé. Et à l'inverse, on voit une filière Mercedes qui a cartonné avec un Ocon et aujourd'hui... Et un Russell qui arrive avec Antonelli. Il y en a d'autres dans la filière Mercedes qui dominent un peu. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs choses en fait qui lui sont reprochées un peu. Et comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il est arrivé peut-être à un âge aussi où il a perdu un peu l'attention. Et donc les quelques débordements médiatiques font que il a plus le support d'avant. Donc certains s'en donnent à cœur joie pour lui faire payer peut-être qu'ils ont dû subir plus tôt.
Laurent, on l'a dit, Dietrich, c'est dur, Matesic n'est plus là. Et les nouveaux, c'est ceux qui les remplacent et qui managent maintenant le Red Bull, semblent plutôt vouloir confier les rênes à seulement Christian Horner. On pense à Oliver Mintzelaf, c'est ça, c'est le responsable de la gestion sportive de la marque.
Amis, je vous laisse.
Salut.
Je vous laisse, à bientôt.
Salut Fabrice. Salut. C'est ça aussi qui pousserait au départ Helmut Marko, Laurent.
Oui. Bon, après encore une fois, aujourd'hui, il jouait l'œil de Moscou pour l'œil de Moscou. Il en a qu'un en plus, donc c'est parfait pour Matesic. Et aujourd'hui, tu vois, c'est lui qui a révélé que, par exemple, Horner avait une proposition de Ferrari, et pour le retenir, ça avait coûté, je sais pas, très très cher à Red Bull. Dans la presse, on entend des chiffres, tu vois, entre 5 et 10 millions d'euros par an pour en salaire de Christian. Donc, tu vois, finalement, il a joué le jeu de Christian.
On lui donne plus de pouvoir.
Certainement que Christian a dû bien le remercier de ce geste-là.
Au passage, par la déclaration, il se positionne un peu au-dessus en disant « ouais, ça nous a coûté cher », mais en fait, ça a coûté cher à Red Bull. Donc, pour vous, l'avenir semble... assez sombre, l'heure de la retraite semble venue pour Helmut Marko, messieurs.
Ouais.
Oui, on est d'accord.
Bon, à 80 ans, je pense qu'il a dépassé l'âge légal depuis longtemps.
Bref, allez, restons chez Red Bull pour parler cette fois-ci du cas Checo Pérez.
De qui ?
Les Grands Prix se suivent et Sergio Pérez semble de plus en plus sombrer face à son coéquipier désormais triple champion du monde, Max Verstappen. La question, c'est plus tellement est-ce qu'on va remplacer Pérez, c'est qui et quand Parce que là, que ce soit la course sprint, il a abandonné encore suite à un accrochage. Donc, il sombre littéralement. Il ne s'est pas qualifié pour la Q1 et pour la Q3. Donc, il était 13e pour la course du dimanche, pour se classer 10e. A priori, il devrait terminer la saison, mais je ne le vois pas continuer l'année prochaine, les amis. On cherche peut-être une sortie honorable pour lui. Il y a plein de rumeurs qui se sont précipitées ces dernières semaines.
Bah, peut-être que c'est chez tel mec qu'on a la solution. Moi, j'en sais rien.
C'est le principal soutien financier.
Ouais,
hein.
Je sais pas.
Ouais. Il y a un truc qui m'a fait marrer parce que la Formule 1 devenant de plus en plus populaire, les mèmes fleurissent. Et un des trucs que j'adore, c'est le support. Donc c'est une fille qui fait ça. Elle a un casque et elle fait comme si elle parlait. Alors un coup, elle parle à tu vois, gère l'écurie Red Bull, un coup à l'écurie McLaren, et que des fois elle décroche, celle qui avait fait sur les commandes de pizza qu'on avait vues et tout ça.
Ouais, c'est pour Ferrari quand ils arrivent au stand et qu'il faut une demi-heure pour changer les pneus.
C'est ça. Bon voilà, tu vois, c'est blague. Et donc là, elle a fait un truc.
C'est pas grave.
Je peux raconter, dire ou pas? Merci. Non, et donc, elle a fait un truc génial. Donc, elle répète ce qu'on lui dit, parce que tu vois, elle, donc elle a son micro, donc elle est filmée. Elle dit ah, double DNF de Red Bull, génial. Double abandon Red Bull, génial. Et ah, donc elle a entendu McLaren. Hein, ah, et les deux McLaren sur le podium, d'accord. Et qui est à côté de Piastri et truc? Et là, ils disent Verstappen. Et tu vois, double abandon et Verstappen. Et tu vois, tu te demandes comment c'est possible, quoi. C'est quand même, tu vois, c'est mythique. Et on vit en fait cette espèce d'enfer, de descente aux enfers depuis donc la course précédente. Et là, c'est pas mieux. Il a fait des sorties de piste, il a fait des sorties de dépassement de piste. Il part 13e, il finit 10e. Tu as Russell qui se retrouve 17e, qui finit 14e, 4e, pardon. Tu imagines la remontée. Il a la meilleure voiture. Donc c'est, je pense, aussi une atroce descente aux enfers. Red Bull, champion du monde, sans lui, il est pas là
pas
quand ça se passe. Non, mais il est pas là quand ça se passe. Verstappen, triple champion du monde, pas là.
Lui. Les années précédentes, il a bien aidé quand même.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est pour lui.
Il est flingué.
C'est pas sans lui, c'est que la course où ça se fait, le mec, il est inexistant. Il est, tu vois, personne ne va l'interviewer parce que ce qui lui est arrivé, c'est que c'est pas agréable.
Non, mène la peine pour lui. Red Bull lui aurait fixé un objectif de résultat pour qu'il conserve sa place l'année prochaine, terminer absolument deuxième du championnat du monde cette année. On a donc même évoqué des rumeurs d'une possible retraite qui ont été démenties par Checo. On annonçait qu'il pouvait se retirer et annoncer son retrait lors du Grand Prix du Mexique. Il veut rester encore 3 ou 4 ans. Ton sentiment pour conclure, Eric, est-ce que tu penses que... Bah que cela m'est dit et que Daniel Ricciardo, dès qu'il sera remis de ses remis en selle, il va reprendre sa place l'année prochaine. C'est le scénario qui se
alors oui, la messe est dite quand on lit les commentaires de Christian Horner toujours qui dit qu'on est la seule équipe qui n'avons pas une paire de pilotes au même niveau. Là, ça veut dire qu'il a signé l'arrêt de mort. La retraite, évidemment, Checo dit non, il n'y en est pas question, mais je pense que c'est pas lui qui va décider malheureusement. Et après, se faire sortir de chez Red Bull après une saison catastrophique comme il l'a aujourd'hui, enfin en tout cas une fin de saison catastrophique comme il l'a vu aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui de trouver un autre baquet. Même si vous l'avez dit, il a quand même l'avantage d'avoir quelques sponsors mexicains et sud-américains qui peuvent l'aider peut-être à rebondir quelque part. Mais ça, la forme qu'il affiche aujourd'hui ne plaide pas en sa faveur pour lui, clairement, de retrouver un baquet.
Ouais, ce qui est étonnant finalement, Eric, c'est qu'il soit encore là hein, et pour en témoigner la déclaration inattendue hein, de l'inénarrable Helmut Marko, encore lui. Regardez, nous n'avons tout simplement pas d'alternative. Il parle bien sûr de Checo Pérez. Sinon, il pourrait avoir un problème, effectivement. Pour le moment, je ne vois qu'une seule personne qui pourrait se rapprocher de Max. Et là, c'est vraiment ça. Alors, je suis tombé de ma chaise. Il parlait de Fernando Alonso. Comment relancer, mettre une pièce dans le flipper, je pense que...
Ça c'est plutôt, je pense, c'est allumer un contre-feu, comme on dit, parce qu'ils ne veulent pas annoncer Ricardo, ou ils ne veulent surtout pas que la presse s'enflamme toute seule en disant « mais vous avez Ricardo », donc je pense que c'est simplement un contre-feu.
Allez, je propose...
Fernando Alonso, il aurait pu aller chez Red Bull il y a plus de 10 ans, quand il était chez McLaren à l'époque. Ouais. Red Bull lui proposait un contrat pour le sortir de chez McLaren, ça arrivait avec Hamilton, mais il y avait un contrat, je crois, que de 1 an. Et Ferrari lui a proposé plus,
Évidemment.
Et du coup, il a été chez Ferrari. Donc, ça aurait pu être un pilote Red Bull aussi.
Quel grand pilote de Ferrari, ce Fernando. Il aurait mérité au moins un ou deux titres. Oui, allez, d'accord. On passe à votre rubrique préférée, je la connais, ça s'appelle Quiz F1. Elles sont là, les questions, et comme chaque semaine, les chroniqueurs sont prêts aux pires choses pour essayer d'avoir des infos sur les questions que je leur pose, et j'essaie de tenir. Alors, vous savez, vous connaissez la formule, 4 questions, et si vous répondez dès la première, vous avez 4 points, et ainsi de suite, 3 points, 2 points, et 1 point. Êtes-vous prêts, messieurs ?
Oui.
Allez, on lance la grille. Attention, il s'agit d'un pilote. J'ai débuté en Formule 1 avec Minardi.
Alonso.
Fernando Alonso, c'est juste.
C'est dit, c'est fait.
Amazing, amazing. Thank you, guys.
Et je vous promets que j'ai pas communiqué les questions, hein, Eric. Le deuxième point.
Fallait pas mettre Alonso dans les questionnaires.
J'ai remporté le championnat du monde de Formule 1 à 2 reprises, donc effectivement Fernando et Alonso. J'ai également remporté les 24 heures du Mans, et je suis originaire d'Oviedo en Espagne. Et j'aurais même rajouté, je suis meilleur pilote de F1 de tous les temps, mais ça, je le garde pour moi quand même. Je sens comme un coup de massue là qui est tombé sur le studio dont on refait la F1. Messieurs, il va falloir réagir. 4 points.
Et Guillaume.
Ouais. C'est ça, Guillaume, on compte sur toi. Hein.
On enchaîne avec un patron d'écurie. J'ai débuté ma carrière chez Peugeot Sport.
Jean Todt.
Non.
Femme.
Eh oui, Bruno Femme. Bravo, Eric.
On est mort.
Là, c'est juste
okay. Ouais,
point.
Sorry. Very sorry.
Bruno Femme, qui est l'actuel patron et directeur d'Alpine. J'ai par la suite rejoint la FIA en 2019. J'ai rejoint Alpine en 2022 et j'ai succédé à Laurent Rossi au poste de directeur d'Alpine cette année. 8-0, ça fait mal, les amis.
On va nous écraser.
Allez, vous pouvez encore revenir. Pilote. J'ai été membre de la Ferrari Driver Academy et été pressenti pour un avenir au sein de l'équipe italienne.
Pressenti pour quoi ?
Pour un avenir au sein de l'équipe italienne.
Bon, allez, je le tente parce qu'on a du retard.
Oui.
Jules Bianchi,
bravo, 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 le regretté Jules Bianchi. Mon manager était bien sûr Nicolas Todd. En 2014, j'ai réalisé l'exploit de marquer des points lors du Grand Prix de Monaco, malgré une modeste Marussia. Et je suis décédé, hélas, le 17 juillet 2015, des suites d'un tragique accident au Grand Prix de Japon 2014. Un petit mot sur Bianchi, peut-être, toi qui l'as côtoyé, Eric. Peu de talent chez ce pilote.
C'était un très, 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 très grand talent qui, sa voie était déjà tracée, effectivement, et il aurait été un grand champion français, en tout cas, ça, c'est sûr. Et donc, évidemment, grosse pensée à lui et à sa famille.
Allez, un ancien patron de la Formule 1. Je suis poursuivi pour fraude fiscale en Grande-Bretagne.
Bernie Ecclestone,
bravo. Elle était facile, elle est d'actualité.
Elle était facile, ouais.
J'ai été l'ancien propriétaire de l'écurie Brabham. J'ai révolutionné la F1 pour en faire un business, ça c'est vrai. Hein. Et je suis surnommé le grand argentier de la Formule 1, bien sûr, Bernie Ecclestone.
Il est coupable, il paye 400 millions de dollars d'amende.
Je crois que c'est plus que ça.
650.
Ouais. 650, ouais, pas mal.
Paye. Donc, en régie, ça fait 8-4-4, c'est ça ?
Exactement.
Allez, vous pouvez encore revenir. Un pilote. J'ai été coéquipier d'Ayrton Senna. On dérisque.
Bon, allez, je le tente parce qu'on a du retard.
Ouais.
Alain Prost ?
Non. En 1995, j'ai failli perdre la vie dans un accident au Grand Prix d'Australie.
Ah.
Eh ouais. Tic-tac, tic-tac.
Non.
Tic-tac. Je peux pas revenir, du coup, non.
Non, tu peux pas revenir. Non.
Hakkinen.
Eh oui, Mika Hakkinen, 12 points. On me surnomme le Finlandais volant. Et j'ai remporté le championnat du monde de Formule 1 en 98 et 99 à la barbe de Ferrari, de Schumacher, bien sûr. Monsieur Mika Hakkinen qui est parti.
Bravo.
Ouais,
moi, bravo. Je dis bravo, respect.
Ouais, ouais, amazing, encore une fois.
Ouais, ouais.
Amazing.
Ça fait mal, là, en régie.
11
hein.
Pour Eric, Guillaume 4, Alain 4.
Donc, il a d'ores et déjà gagné, mais pour le plaisir, la dernière. Allez, on va essayer de peut-être de faire plaisir aux anciens. C'est une écurie. Je suis la première écurie à remporter un championnat avec un moteur turbo.
Renault.
Ouais. Mais non.
Non, Renault, c'est le truc.
C'est BMW.
Oui, mais c'est pas une écurie.
C'est Brabham, pardon.
Et oui, mais Est-ce que je peux l'accepter, celle-là?
Ouais.
Alors, bon, il l'a dit deux fois, du coup. Il l'a dit deux fois.
De toute façon, tu ne reviendras pas.
Non, mais bon, dans ce cas-là, c'est bon. Okay.
J'ai remporté à 4 reprises le titre de championnat du monde de F1. Mon fondateur est le seul pilote à l'histoire de la Formule 1 à avoir remporté un championnat du monde en tant que pilote dans une voiture, portant son propre nom, bien sûr, il s'agit de cette Brabham. Et j'ai quitté la F1 et disparu en 1992. Je n'ai jamais compris pourquoi ce nom n'est jamais revenu en F1, un nom aussi prestigieux que Brabham. Et encore une fois, une écrasante victoire de notre team principal, monsieur Éric Bouilly. On applaudit bien. Bravo.
Merci.
Allez, on conclut comme chaque semaine.
Sur Brabham, c'est parce que tout l'héritage du nom va à son fils, David.
Ouais, mais pourquoi pas, voilà, tu vois, plutôt que As, ou plutôt que, enfin, tu vois, voilà.
Ben parce qu'il y a des problèmes peut-être de négociation de droits et ainsi de suite, je ne sais pas.
Voilà. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix du Texas. Tu veux nous dire un petit mot? Tu as pu regarder le Grand Prix la dernière fois ou pas?
Oui, je t'ai dit que maintenant je me connecte.
Tu étais à l'étranger.
Je me connecte systématiquement avec mon compte.
Là, il est en Corse?
Exactement. Tu sais que je suis un expatrié. Et donc, mais c'est, tu sais que depuis qu'on se connecte avec NordVPN, c'est top. Et voilà, donc on l'a déjà dit sur les émissions précédentes. On peut faire deux choses. Hein. La première, c'est tu te connectes sur un autre pays, et typiquement la Belgique, c'est top. Parce que j'ai donc écouté les commentaires, et c'est vrai que c'est un autre style. Hein. Je ne connaissais pas de Gaëtan, et j'ai trouvé ça assez frais, assez original. Et voilà. Et donc, pour tous ceux qui veulent nous voir avec moins de pubs, qui m'envoient un message privé, je leur explique comment faire.
Voilà, et on vous offre une offre spéciale, hein, NordVPN, avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission, encore en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Allez, avant les pronos du Grand Prix de Texas, on revient sur les pronos du Grand Prix de Qatar. On va relever à nouveau les points.
Alors, je vais mettre en 1, Verstappen. Ouais. En 2, Carlos Sainz. Ouais. Et en 3, Lando Norris.
Verstappen, Lewis Norris.
Verstappen, Lando, Charles.
Verstappen, Norris, Hamilton.
On en a deux.
Deux sur trois.
On en a deux. Moi, j'ai jamais été aussi bon. Hein.
Bon, ouais, c'est pas mal, mais personne n'a trouvé. Le seul à avoir trouvé hein, jusqu'à maintenant, je ne vais pas m'envoyer des lauriers, mais c'est moi. Hein. Bref.
Malheureusement, la fiabilité de Ferrari n'est pas assez suffisante pour que je puisse gagner mon pari. Quoi. C'est ça. Ouais,
on en parlera lors du prochain.
Mon père, vous ne dites rien. Vous.
Non.
Bon, allez, vas-y, pronostic.
Vous ne l'excommiez pas de ce studio. Allez, on passe par les Grands Prix du Qatar. Alors, quels sont vos pronos du Grand Prix de Texas? Et on commence justement, messieurs, avec Guillaume. Alors
Pour être très, très, très original, en 1, Verstappen.
Aïe, aïe, aïe.
En 2, Lando Norris. En 3, George Russell.
Laurent.
Ah, ça me plaît bien. Je vais faire Verstappen, Hamilton, Piastri.
Verstappen, Hamilton, Piastri. Hamilton, bon, d'accord.
Je le tente.
Eric, ton prono.
Qui parle. Verstappen, évidemment. Je mettrai Piastri en deuxième et je mettrai Russell en troisième.
Donc, Amir.
Max, Oscar, Lando.
Oscar, Piastri, Lando Norris. Et moi, je prends des risques. Hein. Je ne suis pas comme vous. Je mets Norris, vainqueur, première victoire en Grand Prix ce week-end. Deuxième, Piastri, troisième, Russell. Alors voilà, ça, c'est une grosse cote.
Ah ouais, là, c'est
grosse cote.
Pour
messieurs,
une fois,
rendez-vous.
Pour une fois, tu es courageux. Ouais.
Dans 15 jours, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve donc dans 15 jours. Puisqu'on va faire, on va se reposer un petit peu entre temps. Vous le savez, on refait la F1, c'est tous les jeudis avant un Grand Prix. Soyez au rendez-vous et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait énormément plaisir. Allez-y. Merci encore, messieurs. À la semaine prochaine, plutôt dans 15 jours. Soyez au rendez-vous. Salut!